le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Sciences et Société. Les tests génétiques permettent de prédire, avant tout symptôme précurseur, une maladie qui pourrait frapper un patient. La maladie n'est ni certaine ni immédiate. Une thérapie préventive est parfois sans risque, parfois très lourde, parfois impossible, et ces diagnostics peuvent être portés sur une personne, sa famille ou un embryon. De telles prédictions peuvent sauver, mais aussi plonger des patients dans le désarroi. Pour débattre de ces questions, la bibliothèque de l'UBU a invité Claude Firec, chef de service du laboratoire de génétique au CHRU de Brest, directeur scientifique de l'établissement français du sang et conseiller scientifique régional de l'INSERM. Philippe Ouvrard, professeur agrégé de philosophie et membre du comité d'éthique du CHRU de Brest. Et Quentin Lepluard, doctorant en droit au LabLex à l'UBU. Dans les deux numéros précédents, nous avons tracé les contours scientifiques, juridiques et éthiques de la médecine prédictive. Dans ce troisième numéro, nous nous focaliserons plus précisément sur l'évaluation de la gravité d'une maladie, le contrôle de la recherche, le droit de savoir ou ne pas savoir, et le statut de la vulnérabilité humaine à partir des questions du public. La parole à Claude Firec sur la gravité d'une maladie.
C'est bon, c'est, on parle ici de maladie incurable, en fait, quand on parle de maladie grave, et les décisions d'une interruption médicale de grossesse ne sont pas prises par un médecin unique. Il y a un collège de médecins qui serait, on se réunit une fois par semaine avec des gynécologues, des pédiatres, des généticiens pour discuter de chaque cas, justement de cette, je dirais, vie qui est possible ou pour laquelle on peut avoir des traitements, pour laquelle on peut avoir de la chirurgie, pour laquelle on peut accompagner, l'embryon qui est porteur de cette maladie, par exemple. Il y a des maladies cardiaques, par exemple, qui sont opérables. Il y a des maladies, donc qui sont des maladies graves, mais dont on sait qu'on peut intervenir, qu'il va y avoir peut-être une opération qui va permettre peut-être d'intervenir. Donc la discussion porte effectivement sur ces maladies incurables et on donne finalement notre autorisation à ce que la demande finalement d'interruption médicale de grossesse soit prise en compte devant cette gravité qui est mesurée, qui est codifiée, qui est connue et qui à ce moment-là peut être mise en place par à la demande de la famille, quoi. Mais c'est vrai que c'est au cas par cas finalement qu'on va discuter ces problèmes-là, quoi.
Pour prolonger ce qui vient d'être dit, on pourrait proposer une distinction. Il y a le cas des maladies incurables et puis il y a le cas des maladies plus ou moins graves. Et le cas des maladies plus ou moins graves, c'est ce qu'une société particulière considère comme plus ou moins grave à une époque particulière donnée. Je veux dire que ce qui, en France, peut paraître inquiétant comme perspective de maladie, dans une autre société, ne paraîtrait pas forcément inquiétant. Et ce qui pouvait paraître à une époque inquiétant ne le paraîtrait pas forcément à une autre époque. Et donc, je dirais déjà ça, il faut distinguer entre maladie incurable et maladie plus ou moins grave, enfin perçue comme telle. Et puis d'autre part, je suis d'accord aussi pour dire que c'est à chaque fois au cas par cas qu'il faut réfléchir. Et ce serait inquiétant si on avait une réponse générale qui catégoriserait les gens par avance et les assignerait déjà à une sorte de trajectoire de vie fatale, quoi, enfin, ou perçue comme fatale, je veux dire.
Si vous voulez, je peux reprendre le texte qui prévoit ça. L'interruption volontaire d'une grossesse peut à toute époque être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité, et on revient sur la question des statistiques, que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Et c'est peut-être la dernière partie la plus importante, reconnue comme incurable au moment du diagnostic, quoi, qu'il faut retenir.
les questions du public.
Il y a des maladies qui sont incurables et pas graves. Par exemple, est-ce que c'est grave d'être dans un fauteuil roulant? Est-ce que c'est incurable? Est-ce que c'est grave? Est-ce que le fait d'avoir la perspective d'un enfant qui sera en fauteuil roulant à partir de l'âge de 20 ans ou 30 ans, c'est considéré comme grave? Et voilà, je ne sais pas si, si on prend en compte, vous disiez qu'il faut deux médecins pour qu'ils soient d'accord sur l'affaire, mais est-ce que les parents sont pris en compte là-dedans? Est-ce que eux, leur définition de ce qui est grave est prise en compte?
Ah, la décision appartiendra fondamentalement aux parents, hein, de toute façon. Ça, voilà.
Oui, la décision appartient au couple. Hein.
Oui,
bien sûr.
Oui, puis derrière le mot grave que vous employez, il y a deux choses à distinguer, il me semble. Il y a la question de savoir la description, le jugement de fait, la description de la situation. Et puis, il y a le jugement de valeur qu'on peut porter dessus. Est-ce qu'on a affaire, oui ou non, à une vie qui serait indigne d'être vécue? Et il me semble que non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie, a priori, indigne d'être vécue. Simplement, il y a des situations où ça devient très très difficile. Mais après, c'est à apprécier au cas par cas, me semble-t-il.
C'est plus ou moins difficile en fonction de la société dans laquelle on
est. Aussi. Exactement. Justement, le CNE, on parle beaucoup, CNE, en disant qu'il faut maintenir la vigilance sur l'accueil des gens qui ont besoin d'être aidés. Parce que si on ne fait pas ça, là, la situation change, bien sûr.
Oui, puis non seulement c'est difficile dans la société, mais si les droits des personnes à risque ou avec maladie ou avec handicap, etc., ne sont pas reconnus, il faut lutter pour qu'ils soient reconnus, quoi.
Une autre question ?
C'était par rapport au contrôle des grands groupes dont on parlait tout à l'heure. Je me demandais, est-ce qu'il existe ou il est en cours de préparation des sortes de grandes agences comme les certains hauts commissariats dans certains domaines ou des agences, des instituts d'inspection qui seraient à préparer ou alors à minima des groupes qui seraient chargés d'informer ou de partager ce qui se fait sur le sujet un peu à l'image du GIEC sur l'environnement?
Moi, j'ai pas de réponse.
Je suis pas compétent.
Il y a l'agence de la biomédecine qui se charge de relier certaines informations par rapport à ça, mais après, sachant qu'il n'y a pas de contrôle systématique qui est fait, qui est prévu, il n'y a pas d'informations.
Il y a effectivement des sociétés savantes de différentes disciplines médicales qui se réunissent aussi, qui font qui proposent en fait des réflexions, sur des préconisations finalement, mais il n'y a pas un niveau international, vous pouvez parler en fait, hein, sans doute qu'il n'y a pas un niveau international. Dans beaucoup de pays, il y a des choses sur lesquelles finalement tout le monde se retrouve quand même quelque part, hein, sur des grands sujets de société, j'en parlais tout à l'heure à l'extrême un petit peu du clonage, des choses comme ça, mais même sur des choses moins importantes. Et puis, finalement, même des pays de culture proche, on s'aperçoit qu'en Italie, les choses ne sont pas tout à fait perçues de la même façon qu'en France, par exemple, ou qu'en Espagne. Donc, il y a des différences quand même, même dans des pays, finalement, de même culture, je dirais, judéo-chrétienne que la nôtre. Il y a des différences et des perceptions qui sont aussi différentes. Hein.
Il me semble qu'on a affaire à un problème qui est assez nouveau, et qui est d'une extrême ampleur et qui est internationalisé. Et on découvre le problème, me semble-t-il, maintenant. Des réflexions s'amorcent, mais quant aux mécanismes de contrôle, je n'ai pas entendu parler de leur mise en place. Parce que si on prend un exemple, la mise dans des bases de données peut permettre de contourner l'anonymat. C'est-à-dire, on récolte des informations génétiques anonymisées, on les met dans des gigantesques bases de données, qui sont anonymes elles aussi, mais on a de tels grands groupes de population que on a le même problème que pour l'usage d'Internet. Une grande base de données croisée avec une autre grande base de données, ça fait une intersection. Et on multiplie les intersections comme ça, on arrive à profiler les gens. De la même façon que l'usage qu'on fait d'Internet permet de recevoir des publicités qui sont ciblées. Elles sont ciblées par rapport à notre comportement, sans que pour autant on ait été l'anonymat ait été levé. C'est-à-dire que on peut parvenir par recoupement des big data comme ça à savoir si quelqu'un a un risque de cancer du poumon, s'il est catholique, s'il est âgé, s'il achète des voyages aux Seychelles, etc. Et par recoupement, on arrive à profiler une population qui réunit toutes ces caractéristiques-là. Et donc, c'est une façon de contourner par les grands nombres l'anonymat que pourtant certains États mettent. Et comme d'un autre côté tout ça se fait de façon internationale et que les GAFAM par exemple ou l'équivalent chinois sont propriétaires des bases de données en question et peuvent les vendre, etc. On est en train de découvrir un tsunami qui nous arrive et on ne sait pas trop comment faire parce que le phénomène est très récent. Mais d'un autre côté on voit aussi des réflexions dans les comités d'éthique belges, canadiens, etc., qui commencent à dire il faudrait peut-être faire quelque chose comme ça. De là à ce qu'il y ait des contrôles, c'est encore... on en est loin, il me semble.
Alors, il y a des contrôles, mais au niveau micro, voilà, c'est pour les... Par exemple, les diagnostics préimplantatoires, l'Agence de la biomédecine, elle contrôle, c'est l'une de ses missions, de contrôler ces diagnostics-là, et donc de contrôler un petit peu de donner certaines directives en matière de médecine prédictive, mais pas au niveau de ces contrôles généralisés qu'on envisageait, puisque ces contrôles-là ne sont pas mis en place à l'heure actuelle en France.
Mais là, on rejoint le débat sur la protection des données personnelles, mais on s'aperçoit que même des données anonymisées sont exploitables pour faire du ciblage. Bon. Oui.
J'essaie de réfléchir à partir des différentes dimensions. Et je me dis que puisque les opérateurs vont nous vendre le test génétique et les tests en tout genre, on aura tous notre cartographie de ce qui ne va pas. Et comme nous sommes tous quand même peu ou prou des bras cassés, à un moment ou un autre de notre parcours de vie, est-ce que finalement... La révélation, puisque visiblement on n'a pas encore compris ça, qu'on est des êtres périssables, est-ce que cette cartographie générale des handicaps des uns et des autres, des pathologies des uns et des autres, ne peut pas conduire à... l'idée du GIEC, je la trouve très intéressante pour notre domaine, et vous dites, non, il n'y a rien, Eh bien, il serait temps.
Oui.
Il serait temps parce qu'on est ça, déjà. Pour, justement, on a évoqué régulièrement, comme une frise, là, la nécessité des accompagnements. Chaque fois qu'on ouvre cette possibilité-là, on revient sur le médecin. Son face-à-face, est-ce qu'il est un peu gentil, pas du tout gentil quand il fait l'annonce de la cata? Mais c'est 3, 4, 5 catas qu'on a avant d'aller voir le bon Dieu. Et puisque les situations de pathologie sont des situations de pathologie cumulées, de déficience ou autre. Donc si j'évoque ça, c'est pour me dire, est-ce que la révélation du fait qu'on est tous avec un petit peu, un jeune quelconque qui va pas bien ou qui n'allait pas bien déjà depuis longtemps mais qu'on n'a pas vu à temps, etc., etc., est-ce que ça ne devrait pas nous permettre d'engendrer, parce qu'on a évoqué la génétique, une société un peu plus viable pour tous? Disons, c'est le statut de la vulnérabilité, parce qu'à vous entendre, on pourrait avoir l'impression des fois qu'on est dans la recherche du produit d'excellence, du produit parfait. Et je me posais la question, mais finalement, il y a combien d'individus, si on était tous testés, qui pourrait dire « j'ai du 100% » Enfin, il y a quelque chose qui m'échappe dans, okay.
On est tous vulnérables,
cette manière de penser. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas de femme à la table, mais comme je suis venue régulièrement ici et que je ne trouve jamais de femme parmi vous...
Ah bon, c'est pas vrai, il y en a eu.
Non, d'ailleurs, Quentin accepte... Sur le droit, il n'y en avait pas non plus.
Quentin a accepté de remplacer une femme qui est tombée malade.
Oui, voilà, j'ai entendu. Oui.
Mais la question... La question que vous posez, c'est la vulnérabilité, ce qui pour moi fait l'humain aussi. On l'a posé déjà avec Quentin, notamment, justement, avec le transhumanisme. Il faut voir qu'il y a des visions de la société qui s'affrontent, et des visions de la santé qui s'affrontent. Donc on est...
La femme diminuée.
L'homme et la femme augmentée. Et il y a des gens qui pensent au contraire qu'il faut aller vers l'enfant parfait, etc.
Bien sûr, il y en a qui entretiennent voilà, cette illusion qu'on pourrait atteindre la perfection dans l'humain, un être humain qui ne serait jamais malade, qui aurait des facultés cognitives ou physiques décuplées. Après, est-ce que c'est un mythe en soi. L'homme a toujours voulu être plus fort. Le plus vieux mythe de l'humanité, c'est l'épopée de Gilgamesh, c'est un homme qui recherche l'immortalité. Il y a toujours cette question-là, mais il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que dans ces textes, dans ces tests génétiques, il y a quelque chose qui est fondamental dans le droit, c'est le droit de ne pas savoir. Hein, vous avez la possibilité, quand vous faites un test génétique, même quand c'est pas vous qui le demandez, de mettre que vous ne voulez pas savoir si vous êtes atteint d'une maladie, d'une infection particulièrement grave et où il n'y aurait pas de remède.
Oui, puis il ne faut pas oublier une chose, même si on a parlé beaucoup de génétique aujourd'hui, que tout n'est pas génétique.
Hein. Bien sûr. Il y a les facteurs à côté, c'est multifactoriel, comme on disait.
Entièrement d'accord avec votre idée que la vie, c'est le fait d'avoir des bras cassés, effectivement. Disons, on pourrait dire que la vie, c'est une sorte d'équilibre dynamique, c'est-à-dire une chute rattrapée. Quoi. C'est-à-dire que... Une chute rattrapée. C'est un philosophe Merleau-Ponty qui dit ça à propos des enfants quand ils apprennent à marcher, des châteaux branlants. Quand il apprend à marcher, on voit bien que la marche, qui pour l'adulte est un équilibre, est un équilibre qui est composé de déséquilibres. Puisque l'enfant risque de tomber, il se rattrape et puis ça passe dans le mouvement comme ça, quoi. Bon, je trouve que c'est une métaphore assez juste pour dire ce que c'est que la vie. La vie, c'est du déséquilibre qui est corrigé en permanence à peu près, quoi. Donc il y a en permanence des dysfonctionnements dans le fonctionnement, du déséquilibre dans l'équilibre. Et le fait qu'on découvre qu'il y a des anomalies ne devrait pas effrayer. C'est normal.
Après, il y a une différence entre le fait de savoir qu'il y en a et le fait de savoir qu'on en est potentiellement porteur. Mm-hmm. Et voilà, c'est là que la différence se tient. Si la question de généraliser ça, ça revient à imposer à la personne une information qu'elle aurait peut-être pas désirée et avec laquelle elle ne voulait peut-être pas vivre. Le cas, mais pour autant, elle ne le sait pas. La psychanalyse vous montre l'importance de ne pas savoir, l'importance de l'oubli dans la construction humaine, l'importance vivre avec quelque chose, avec cette information-là, qu'on est potentiellement porteur d'un gène qui favorise le cancer, qu'on va potentiellement être atteint de telle ou telle maladie, c'est un fardeau. Et c'est pour ça que, justement, on est accompagné quand on a quand on va avoir cette information. Donc le généraliser, ça peut être, ça peut être très dur à porter et lourd de conséquences.
Si je peux me permettre, je vais faire comme M. Pivot, je vais vous conseiller une lecture que j'ai trouvée moi-même de Jérôme Poré, qui est philosophe aussi à Rennes. Ça s'appelle « Le droit de savoir et le droit de ne pas savoir », je crois. Et il montre, ce que j'en ai compris, comment la vie est un projet, et dès lors qu'on apprend quelque chose sur sa propre mort, le projet n'est plus le même. Et comment la vie de quelqu'un qui sait n'est pas la même de quelqu'un qui ne sait pas, qui va mourir ou qui va finir, par exemple, avec une maladie grave. Je vous conseille la lecture, je ne vais pas vous en faire le résumé. Jérôme Poré, P-O-R-E-E. droit de savoir et la génétique contre l'homme, ça s'appelle droit, encore que la génétique, on n'est pas contre. Hein. Contre l'homme, droit de savoir et droit d'ignorer. Ouais. Mais il y a une question au fond là-bas.
Merci. Alors moi, ça porte justement sur le droit de savoir ou de ne pas savoir. Est-ce qu'on pourrait travailler sur le fait que des parents aient envie ou besoin de savoir et que l'enfant ne le sache pas, ne soit pas obligé de le savoir? Par exemple, l'enfant grandira un jour, il prendra un crédit, c'est toujours ce qu'on cite classiquement, il va avoir un questionnaire de santé, il peut ignorer être porteur, et la suite, s'il a mis qu'il était porteur, qu'il tombe malade et éventuellement qu'il meure, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'anonymat quant au résultat que vous évoquiez tout à l'heure? On dit traditionnellement aux patients, ne mentez pas sur vos questionnaires de santé, mais qu'est-ce qui se passe en réalité si vraiment cet anonymat est tenu, juridiquement, pardon? Merci. Tu n'as pas été clair, peut-être.
Je vais essayer de répondre. Merci. D'après ce que j'en ai compris. L'anonymat en la matière, il est très particulier parce que ça va au-delà de la personne en elle-même. Je l'ai abordé un petit peu. Quand vous allez avoir un de ces tests génétiques où il y a une potentialité de découvrir que vous êtes potentiellement porteur de telle ou telle maladie, si cette maladie est soignable, enfin, est curable, on peut faire de la prévention par rapport à ça, vous êtes tenu d'en informer les personnes qui pourraient potentiellement le porter. Les personnes de votre famille, enfin voilà. Vous êtes tenu de le faire. Et vous pouvez le faire par médecin interposé. Il y a tout un processus qui est défini dans le Code de la Santé publique. Mais en tout cas, vous êtes tenu de le faire parce que justement, ça va au-delà.
Alors il faudrait définir le mot soignable.
C'est ça. Après, c'est toute la question. En tout cas, pour laquelle on peut faire de la prévention. Hein, c'est ce qui est mis dans la loi.
C'est peut-être une...
Oui, on a une définition un peu aujourd'hui qui commence à être consensuelle entre les différents pays. C'est ce qu'on appelle des mutations actionnables, c'est-à-dire des mutations sur lesquelles on va pouvoir soit proposer une prévention, un suivi, enfin sur lesquelles on va pouvoir avoir médicalement une action. Et donc il y a une liste de 59 gènes aujourd'hui qui font partie de ces gènes actionnables, c'est-à-dire quand on trouve une anomalie dans ces gènes-là, on va pouvoir sur le plan médical agir. Et donc c'est à partir de cela qu'on commence à réfléchir aujourd'hui.
Sur cette question-là, le comité éthique français s'est prononcé pour que l'information concernant un nouveau-né ne soit pas systématiquement encouragée. Et en mettant comme cran d'arrêt, en quelque sorte, face à l'information systématique, la question de l'intérêt de l'enfant. Après, bon, c'est un avis du comité éthique. Il faut que la société s'empare de ce genre de proposition et réfléchisse sur est-ce que le critère de l'intérêt de l'enfant comme cran d'arrêt à la révélation systématique est bon ou pas. Il me semble qu'il n'est pas trop mauvais, mais bon, il faut voir si on ne peut pas l'améliorer, quoi.
Alors, pardon, je reviens deux secondes sur l'anonymat des tests. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un ment sur un questionnaire de santé et qu'il meurt, par exemple? Une assurance va venir vers vous, va vous demander si la personne avait passé un test, ou s'arrête l'anonymat?
Alors ça peut être soit considéré comme une fraude à l'assurance, mais ce me semble...
Où s'arrête l'anonymat?
Oui, ce me semble, en fait, vous ne pouvez pas faire de discrimination, en France en tout cas, sur vos caractéristiques génétiques. Donc pour l'instant, c'est illégal de faire des discriminations par rapport à ça. Donc vous pouvez tout à fait mentir là-dessus, il n'y a pas le
droit.
Merci.
Voilà. Non, non. Ça passera à la radio, donc.
Merci, Quentin. Il y avait une question là-bas. Ouais.
Oui. Ma question va préférentiellement aux philosophes. Et je m'intéresse, ou bien je voudrais avoir votre avis sur les incidences de la médecine prédictive sur l'autonomie du patient. C'est-à-dire la question du patient et la question de l'autonomie. Quelles sont les incidences? Merci.
Merci. C'est une question assez difficile. Bon, il y a la question, l'autonomie peut se jouer sur la liberté de savoir et la liberté d'ignorer. Est-ce que j'ai cette liberté d'ignorer ou pas? Et alors là, il faut que ce soit que ce droit de ne pas savoir soit garanti par des procédures juridiques, etc. Pour ce qui est de l'autonomie plus précisément, ça passe, il me semble, par la manière dont la personne interprète les données qu'on lui donne. La personne reçoit à tort ces informations-là comme une injonction ou la prescription de certains comportements, etc., la personne, en quelque sorte, va se trouver enfermée dans une définition qu'on lui assigne. L'autonomie, en revanche, peut être préservée s'il y a accompagnement, on aide la personne à comprendre la portée des informations qu'on lui donne, à avoir la responsabilité que ça peut avoir par rapport à ses collatéraux ou sa famille, etc., quoi. C'est-à-dire que l'autonomie, en fait, n'est pas quelque chose de purement individuel, c'est relationnel. Et c'est quelque chose qui n'est pas, quelque chose qu'on aurait en stock au départ. C'est un processus, c'est une autonomisation plutôt. C'est-à-dire que personne ne peut dire « je suis autonome ». Mais tout le monde peut essayer d'être un peu moins sous contrainte ou un peu moins en situation d'hétéronomie et peut s'autonomiser. Et ça passe par la possibilité de se responsabiliser ou de pouvoir assumer des conséquences de ses choix, etc. Mais pour ça, il faut que l'information soit interprétée, accompagnée, etc.
D'autres questions ? Oui, Chantal.
Bonsoir. Alors, dans le cadre d'une maladie grave incurable, donc en l'occurrence la mucoviscidose, on a en France quand même le test de Guthrie à la maternité. Donc, au bout de 3 semaines, alors il y a un consentement, hein, si je ne m'abuse, pour pouvoir faire ce test. Donc on peut nous annoncer donc cette maladie qui est en l'occurrence grave et incurable. Et notre enfant en fait n'a rien demandé. Il est pris en charge. Mais par contre, il y a des familles qui font le choix qui le savent, qui ont un autre enfant et qui font le choix de ne pas faire forcément de test. Et donc du coup, ma question serait ces enfants-là en fait en grandissant, donc en sachant que ses parents ont su qu'il serait porteur de cette, enfin qu'il aurait cette maladie. Est-ce que ces enfants-là, en fait, dans le droit, il y a quelque chose qui existe comme quoi ils pourraient se retourner éventuellement contre ses parents, quoi.
Alors, ça fait écho à une affaire très célèbre, c'est l'affaire Perruche, dans laquelle la Cour de cassation avait reconnu le préjudice de vie d'un enfant. Cette décision, elle a été décriée par beaucoup d'auteurs, considéraient qu'il y avait des vies indignes d'être vécues. Et donc, depuis, postérieurement à cette loi, en 2002 de mémoire, il y a eu un ajout dans la loi, c'est dans le code de l'action sociale et des familles, le fait que nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. Donc non, on ne peut pas, en droit français en tout cas, aller porter devant les tribunaux, poursuivre ses parents devant les tribunaux du fait de ce préjudice-là. Mais ça fait écho également à ce qui se passe en Inde à l'heure actuelle. Il y a une vague de procès d'Indiens que les Indiens font à leurs parents, de jeunes Indiens qui font à leurs parents, du seul fait de les avoir mis au monde dans un monde... dans le monde, dans la caméra. C'est ce qu'on appelle l'antinatalisme. Voilà, c'est assez intéressant. Et en Inde, la question se pose à l'heure actuelle, voilà, par rapport à ça. Mais en droit français, non. Il y a eu une loi exprès faite pour ça.
Et après, aussi, l'accompagnement des parents, en fait, qui... Parce que c'est compliqué en plus, quand on a déjà un enfant atteint d'une maladie qui, en soi, on est heureux qu'il soit là, et voilà. Et vous voyez d'autres cas dans nos familles, en fait, qui bénéficient du coup des tests et à qui on se retrouve à conseiller. On ne sait pas quoi conseiller, en fait. C'est très compliqué, en fait. Le choix, après, se fait soi-même. Mais c'est vrai que c'est des questions pas faciles pour les familles aussi, quoi.
Ce sont des questions difficiles, hein. D'autant plus difficiles que ce sont des maladies qui sont en train d'évoluer aussi, et La maladie, la mucoviscidose, n'est pas la même aujourd'hui de ce qu'elle était il y a 40 ans. Hein. Et j'espère qu'elle ne sera pas encore la même pour les gens qui sont dans 20 ans ou dans 30 ans. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce qui était une maladie incurable à un moment donné de l'histoire. On espère qu'elle ne le sera plus dans quelques années. Donc là aussi, les choses, les avancées de la médecine vont nous permettre sûrement de revoir un certain nombre de choses. Quoi. Et c'est vrai que même si aujourd'hui, dans ces maladies graves, l'espérance de vie ne peut être que de peut-être de 30 ou 40 ans, c'est vrai que des discussions que j'ai pu avoir moi avec des jeunes, ils me disent ben, finalement heureusement que le diagnostic anténatal n'existait pas quand on est né parce qu'on serait, pas là quoi. Mmh. Et donc c'est vrai que c'est des réflexions après importantes hein.
Ouais, très personnel, mais c'est, enfin, on en revient à la question de la vie digne d'être vécue, hein, une question qui fait débat depuis un bon nombre d'années et qui refait encore débat à l'heure actuelle avec l'affaire Vincent Lambert. Et ça, c'est des questionnements, vous voyez, où le droit touche énormément de domaines et où la réflexion pluridisciplinaire est les plus importantes. D'où l'intérêt de ces comités d'éthique, justement pluridisciplinaires, et de ces concertations au niveau citoyen que sont les états généraux de la bioéthique.
Et je crois aussi qu'il faut mettre en garde contre une surindividualisation de la responsabilité. On ne peut pas rendre ses parents responsables du fait que le monde est ce qu'il est, quoi. Le fait que les parents aient connu que le monde n'était pas si terrible que ça avant qu'on naisse n'est pas une raison suffisante pour les accuser de nous avoir mis au monde, quoi.
Et pourtant, certains considèrent que... Voilà.
Mais vous disiez qu'on ne peut pas condamner un parent parce qu'il a donné naissance à un enfant, mais vous avez dit aussi tout à l'heure que quand on était diagnostiqué d'une maladie génétique, on était contraint d'informer sa famille. Est-ce qu'on pourrait envisager que, par exemple, un neveu ou un petit enfant pourrait attaquer son oncle ou sa grand-mère pour ne pas avoir révélé qu'il avait une maladie génétique ?
C'est une bonne question. Je pense que oui. Enfin, en lire les textes, oui, puisqu'il... Mais si vous voulez, là, la question ne se posera pas au niveau de la naissance. C'est juste qu'ils n'en ont pas été informés et ils n'ont pas pris les mesures par rapport à ça. Le préjudice, ce n'est pas le préjudice d'être né en tant que...
Par exemple, si le neveu fait un enfant et que son enfant est malade... Et qu'il dit à sa tante, mais tu m'avais pas dit que tu avais une maladie génétique.
Il n'avait pas dit à sa mère plutôt. Alors, enfin.
Oui, enfin à sa mère ou à je sais pas qui. Enfin, quelqu'un dans la famille a une maladie qui ne l'a pas dit au reste de la famille, qui a fait un enfant, qui a eu un enfant handicapé, mettons. Est-ce qu'il peut se retourner contre la personne qui n'a pas informé le reste de la famille?
Tout dépendra alors du préjudice qu'il invoquera et du préjudice duquel il demandera la réparation. Je pense que l'enfant ne pourra pas attaquer cette personne-là, mais les parents pourront le faire, si vous voulez. Parce que l'enfant ne pourra pas se plaindre de sa naissance. Il ne pourra pas dire « oui, tu m'as fait naître ainsi ». Et demander du coup une réparation. Cette réparation-là, elle est prévue. Enfin, c'est la solidarité nationale qui la prend en charge. En revanche, les parents pourront peut-être le faire, et ce me semble le but de l'article, de dire tu ne nous as pas permis d'agir en conséquence, en connaissance de cause, alors même que c'était imposé par.
La loi a changé à cet égard ça nous aide, nous médecins, par rapport aux questions que vous posez, c'est-à-dire que pendant des années. Quand on diagnostiquait une mutation dans un gène de susceptibilité au cancer du sein, comme j'en parlais tout à l'heure, par exemple, il était demandé à ce que la personne chez qui on avait diagnostiqué ce risque, cette mutation, fasse l'information de ses sœurs, de ses cousines, etc., pour que l'information soit transmise dans la famille. Et il n'était pas... Nous, médecins, n'en avions pas le droit de... quelque part, de les convoquer pour leur dire « venez nous voir ». Et donc, on était très, très mal à l'aise par rapport à ce fait d'une fois d'avoir une information dont on savait qu'elle ne diffusait pas dans la famille parce que les gens ne se parlaient plus. Et donc, il y avait des gens qui étaient potentiellement sur lesquels on aurait pu leur proposer une prévention et on ne pouvait pas le faire. Et donc, c'était vraiment très, très difficile. Et aujourd'hui, la loi a changé et on peut, lorsque les gens ne se parlent plus dans une famille, à ce moment-là, je peux les convoquer et leur dire qu'il y a un problème génétique dans la famille, venez me voir. Et donc, l'information va circuler par le médecin à ce moment-là. Mais ça, c'est tout à fait récent, hein, c'est depuis 2 ou 3 ans.
Oui, c'est ça.
Excusez-moi. Et par rapport à le genre de situation que vous évoquez, là, par le passé, on aurait dit, ben, c'est la faute à pas de chance. Et maintenant qu'un savoir est possible, on croit pouvoir dire, cherchons un bouc émissaire. Cherchons qui accuser. Mais peut-être qu'il faut poser une autre question que celle de à cause de qui, et se demander, bon, ben, non plus en tourner vers l'amont, mais vers l'aval, si vous voulez, se demander, ben, une fois que ça existe, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là que réintervient la question de la solidarité nationale. Plutôt que de vouloir chercher à obtenir gain de cause par une procédure entre un individu et un autre individu, pour que lui paye le tort que j'ai ou le dommage que j'ai, dont je suis affecté, mieux vaut peut-être prendre en charge collectivement le fait que quelqu'un a un besoin qui pourrait être arrivé à n'importe qui et qui se trouve arrivé à une personne, mais c'est comme ça, quoi. En termes de solidarité, plutôt, quoi.
Merci à Claude Férec, chef de service du laboratoire de génétique au CHRU de Brest, directeur scientifique de l'établissement français du sang et conseiller scientifique régional de l'INSERM. Merci à Philippe Ouvrard, professeur agrégé de philosophie et membre du comité d'éthique du CHRU de Brest. Merci enfin à Quentin Lepluard, doctorant en droit au Lab Lex à l'UBO. La programmation du Lab U est interrompue cet été. Elle reprend à la prochaine rentrée universitaire avec Félix Tréguer qui présentera son ouvrage « Internet, une utopie déchue ». Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U et sur la page des bibliothèques universitaires de l'UBO.